Radio Cassine, Grand Théâtre.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Didier Kazadinombe, ancien patron des services de renseignement sous le régime de Laurent Désiré Kabila, actuellement député national. Monsieur Didier Kazadinombe, merci de nous recevoir chez vous.
Merci aussi.
Alors avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours professionnel et politique, des fonctions que vous avez occupées dans ce pays. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une petite biographie de vous. On va parler de votre enfance. Dites-nous, vous êtes né où et quand?
C'est le 4 novembre 1947, en Bougimain, Bakwanga, à cette époque.
C'est là où vous grandissez?
Oui, j'ai fait une partie de ma vie en Bougimain. J'ai fait mon école primaire en Bougimain et une partie de l'école secondaire aussi en Bougimain. Comme mon papa travaille dans l'administration, en tant que comptable, en étant belge, et on a fait beaucoup de parcours de trois pays qui étaient colonisés par la Belgique. Donc, le Congo, le Burundi et le Rwanda. Donc, il y a eu toujours des permutations. On a connu presque tous les Congos.
Vous avez passé votre enfance entre le Congo, le Rwanda et le Burundi.
Le Burundi, avec mes parents.
Vos études, vous les avez faites aussi au Congo, au Rwanda et au Burundi?
Burundi aussi.
Vous avez fait quel genre d'études?
Bon, j'ai fait l'école primaire, puis secondaire, et puis ça c'est entre le Rwanda et le Burundi. Mes études supérieures, je les ai fait à l'extérieur, à l'académie militaire. Mais là, c'est après que j'ai rencontré mon amie Kabila qui m'a envoyé à l'extérieur pour la formation politico-militaire dans des pays de l'Est, ici, y compris la Chine.
Vous étiez quel genre d'enfant? Survivant, timide?
Pas timide comme tel, je n'ai jamais été timide.
C'est turbulent.
Oui, ça c'est vrai, c'est turbulent. J'ai toujours eu une idée depuis mon enfance, la révolution. Je pensais toujours à faire quelque chose, compter sur moi-même, sur mes propres forces. Et je ne comptais pas beaucoup sur mes parents.
Trop jeune déjà, vous aviez été géré. Et pourquoi tu vous as mis ces idées en tête? C'est par rapport à une situation que vous avez vécue?
Non, je crois que dans la nature, même dans la famille, vous pouvez être 4 à 5, mais chacun a sa façon de voir les choses. Donc, je suis parmi les 7 dans la famille qui a suivi cette voie. Bien sûr, je suis né dans une famille de 7 enfants, dont 2 garçons, dont moi-même, nous sommes l'aîné, et 5 filles. En tant qu'aîné, j'ai commencé à prendre beaucoup de responsabilités en tant qu'aîné de la famille avec plusieurs filles.
Et dans quelles conditions vous avez grandi?
Je peux dire que mon papa, étant comptable à cette époque-là, ce n'était pas une vie malheureuse, puisqu'ils étaient considérés comme des évolués à cette époque. Bon, quelqu'un qui pouvait avoir une voiture dans les années 50 n'était pas n'importe qui. Alors, j'ai étudié même dans des bonnes écoles primaires à cette époque-là. Mais ça ne me disait pas grand-chose, puisque je peux dire que ma révolution a commencé quand... Je me souviens quand nous étions jeunes, on allait au cinéma, on ne pouvait pas nous accepter dans le cinéma des blancs. Alors, quand vous arrivez là, on dit non, ça c'est pour les blancs, vous devez aller regarder le cinéma à l'extérieur. Et moi, je me suis toujours révolté. Je me suis toujours battu et fait tout pour entrer des forces. Ça a commencé par là.
Alors, parlons de votre rencontre avec Laurent Désiré Kabila. Vous êtes un ami, un très grand ami à Laurent Désiré Kabila. Comment vous êtes
connu? Je l'ai rencontré, j'étais jeune, j'avais peut-être 19 ans, je crois.
19 ans.
Nous sommes rencontrés pour la première fois à l'Académie, et puis de là où...
L'Académie, vous étiez allé faire quoi? Dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés?
Donc, mon papa aussi a travaillé aussi à l'Académie.
Ah, d'accord.
De là, on a commencé à recruter les jeunes pour faire la révolution, donc après la mort de Lumumba.
Vous vous êtes rencontrés comment? Dans la rue? Au cinéma, quelque part?
Non, à travers des amis. Donc, j'avais des amis, un ami qui est déjà mort aussi. Et malheureusement, il est mort quand nous étions en exil. Et lui, il était natif de là et qui était aussi déjà recruté avant moi. Alors, le bruit courait. comme ça qu'il s'était également récupéré de venir. Comme c'était une amie à moi, il est venu, il m'a convaincu, on a accepté, puis on a traversé ensemble, on est allé au Burundi, et c'est du Burundi là où on est allé en Chine.
Vous êtes allé en Chine?
Oui.
En Chine? Qui vous envoie en formation?
Je.
Il avait assez de moyens en ce moment-là pour prendre l'information.
Il était le dirigeant, il était notre chef, il était le dirigeant, ce n'est pas lui qui payait l'argent, mais il y a des pays amis qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs.
Comme quel pays par exemple?
À ce moment-là, nous avions des pays de l'Est qui nous soutenaient, donc plusieurs pays de l'Est, on peut dire communistes à cette époque-là, parce que notre parti était un parti de gauche.
Vous avez fait combien de temps en Chine pour la formation?
Oui, une année, et puis on est...
Vous êtes rentré à Kalimi?
Oui, on est non, pas à Kalimi, à Bujumbura d'abord, et puis en Tanzanie, c'est ainsi qu'on a, comme j'avais déjà créé un MIT à Barewabora, et Wimbidira, Barewabora, Wimbidira, ça veut dire le bon vent. Après, il y a eu plusieurs attaques de militaires de Mobutu, et puis on a créé un deuxième maquis qui s'appelle Wimbidira. Il y a des avions et des sociétés aériennes qu'on a surnommées Wimbidira et Wabora, c'est à cause de ça.
Quand vous avez rejoint le maquis de Laurent Désiré Kabila, vous étiez déjà marié?
Non, je ne suis pas marié. Pendant longtemps, je ne suis pas marié. Mais j'avais fait un enfant, en première mère, quand j'étais encore étudiant, avec une copine qui étudiait avec moi, et voilà, c'était mon premier né, et je l'ai vraiment quand j'avais 20 ans.
Bon, à 20 ans, on est déjà à 20
ans, mais c'est tôt, parce qu'aujourd'hui, les gens se marient ou ils font des enfants après 30 ans.
Oui, c'est par rapport peut-être à la situation aussi, hein.
Ah, oui.
Alors, vous dites que vous avez vécu en Tanzanie.
Oui, on a passé notre grand moment en Tanzanie, et surtout quand ils ont détruit notre maquis, parce que tous nos combattants ont pris fuite, ils sont allés à demander l'asile politique en Tanzanie. Moi aussi, j'étais exilé politique en Tanzanie, là où je passais une grande partie de ma vie. Et c'est là
à
où.
À peu près combien d'années?
À peu près une trentaine d'années, oui. Et j'ai.
On peut dire que c'est votre deuxième patrie, la Tanzanie?
C'est ce que je dis. Puisque presque tous mes enfants sont nés en Tanzanie. Donc, après mon premier né, qui lui était né au Congo, mais le reste sont nés en Tanzanie.
Alors, vous êtes rentré en Tanzanie lorsqu'on a détruit le maquis?
Oui. Mais on a toujours continué à avoir des relations avec certains villageois et combattants qui sont restés là.
Vous êtes rentré en Tanzanie, Laurent Désiré Kabila, il est resté dans le maquis?
Oui, il est sorti aussi plus tard. Bon, lui, il est resté pendant 10 ans, il n'a jamais vu l'extérieur. C'est pour cela que j'ai dit que s'il y a un Congolais qui s'est sacrifié pour ce pays, il n'y en a pas de plus Kabila, il n'est pas encore dit. Je veux dire Kabila Laurent.
Alors,
il est resté pendant 10 ans sans mettre son pied à l'extérieur. Il est sorti pour la première fois en 1977. Pour la première fois. Donc, nous sommes sortis ensemble, on est allés en Belgique. Ils étaient invités par un parti communiste belge de M. Ludo Martin, qui vient de décéder d'ailleurs la semaine passée.
Alors, vous avez vécu avec Laurent Désiré Kabila. Dites-nous, il était quel genre de personne? On dit qu'il voulait faire tout au même moment, donc embrasser plusieurs choses à la fois.
D'abord, je vais vous dire, il y a les gens, moi, parfois j'ai lu certains livres, les gens qui essaient de déformer l'histoire de notre pays et plus particulièrement du musée. Certaines personnes, ils décrivent que vous êtes un commerçant, un trafiquant
d'or,
un grand soulard. J'avais lu dans un journal allemand, on dit qu'il terminait toute une bouteille de whisky.
Passait toute sa journée à boire.
Et un jour, je peux vous donner encore un exemple typique. Nous venions de Genève avec lui dans la vie. J'étais avec lui dans la vie, bien sûr, avec les gars. Et on rentra, puisqu'il venait d'une visite médicale. Et en rentrant, on avait prévu de passer par le Caire. Et malheureusement, pour certaines raisons, en dernière minute, avant même de prendre l'avion, il m'a dit d'appeler l'ambassadeur de Kiev pour demander cette invitation. Et nous sommes partis, on a survolé le guide. Et quand nous sommes arrivés ici, il y a eu des bruits que voilà, Mivé n'est pas descendu au Caire parce qu'il était sous dans l'avion. J'étais assis devant lui. Je ne l'ai jamais vu prendre une bière, moi. Il prenait du sucre devant moi, déjà tout le vol, jusqu'ici. Et je descends ici dans le premier journal, on écrit qu'il était sous, il ne pouvait pas. Mais non, voilà, c'est des
mais il prenait quand même la bière, là.
Je n'ai jamais vu, moi.
De tout le temps que vous avez passé avec lui, vous l'avez jamais vu prendre.
Jamais.
La bière.
Et je peux vous dire, par exemple, moi je bois ma bière, j'adore ma boisson, j'adore mon vin. Souvent même avec des camarades, même quand nous étions en Europe, par exemple, dans cette visite dont je vous dis, on était invités là où les camarades qui étaient avec nous avaient peur de boire parce qu'ils disaient, oh que je sais qu'ils boivent tous les jours. Mais ils ne pouvaient pas boire parce qu'ils avaient peur de muser. Ils ne peuvent pas boire devant muser. Donc tout le monde avait peur de boire devant muser. Donc, je ne sais pas, me forcer de boire devant lui, mais beaucoup de nos camarades, même ceux qui étaient qui sont à côté de lui, ne touchaient pas un verre.
Vous étiez très proche de lui, cette opportunité vient d'où?
Il m'a aimé, il m'a adopté comme son fils, il m'a adopté vraiment comme son fils, bien que nous sommes de régions différentes, moi et mes enfants, dans sa famille comme ma famille et vice versa. Du Katanga, je suis du Kasaï, et quand nous sommes arrivés, beaucoup de gens pensaient que j'étais aussi du Katanga, parce que j'ai occupé des postes importants dans ce pays, ils pensaient que bon, ce genre de postes, on donne le dans de ce soir. Au Katanga aussi par hasard, il y a aussi des Kazali. Alors tout le monde savait que j'étais aussi du Katanga. C'est pas après que certaines personnes m'ont vu en train de parler de Kiluba et c'était étonné. Comment est-ce qu'on a donné un poste si important à un
Kassayo? Vous n'avez pas rendu un service quelconque pour qu'il soit très proche de vous comme ça, pour qu'il vous donne un poste important?
Il m'a vraiment adopté comme son fils au départ. Je n'avais rien à lui donner à cette époque. C'est lui qui m'a informé.
Vous arrivez en 1927 à Kinshasa, le régime de Mobutu tombe. Vous étiez avec lui quand l'Afdel est arrivé?
Ils sont venus avec lui. On a commencé avec lui. Normalement, moi, j'étais chargé des relations extérieures et de recrutement des cadres. Comme vous le comprenez, dans la révolution, il y a peu de cadres, peu d'intellectuels. Bon, on a, bien sûr, des jeunes, des soldats, des combattants, on en avait, mais on n'avait pas de cadres. Donc, je dirais, c'est un autre grand problème. Quand on va arriver, on prend le régime, on doit avoir les cadres. C'est que si j'ai passé beaucoup de temps aussi en Belgique,
pour recruter
beaucoup. Certains sont ici aujourd'hui, je les vois, ils sont dans les affaires. Certains sont morts. Et ainsi que quand nous sommes arrivés à Goma, ils sont venus, je les ai invités, ils nous ont suivis à Goma et nous avons avancé.
Le pays tombe entre vos mains. C'est vrai qu'au début, toute la population a été contente d'avoir un nouveau régime, de chasser le régime de Mobutu. Mais à un moment, on a senti que l'Afdel avait du mal à gérer le pays. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que vous n'étiez pas préparé à ça?
Préparé, j'ai oublié de vous dire le problème d'abord des cadres.
C'était ça le problème?
Mais on dit que nous n'avons pas bien géré le pays, je ne crois pas. Je vais vous dire que vous connaissez l'histoire de notre révolution. Quand nous sommes entrés, nous sommes entrés avec une armée rwandaise qui nous a aidé à former nos jeunes soldats. Et quand nous sommes arrivés, les populations n'étaient pas vraiment avec eux. Au début, ils étaient contents, mais par après, ils ont vu que le soldat rwandais commençait à maltraiter les Congolais. Et c'est pour cela que je dis que nous avons sacrifié pour ce pays. Jusqu'au sacrifice suprême. À ce moment-là, nous n'avions pas une armée congolaise forte. Mais il a pris une décision. C'était une pilule amère pour demander aux Rwandais de partir pendant que nous n'avons pas une armée. Tout cela, c'était parce que nous voulions donner la paix à nos populations.
Est-ce que c'était une bonne décision de demander aux Rwandais de partir en ce moment-là?
Pour moi, c'était une bonne décision de nous apporter. Parce que c'est ça le sacrifice. Donc, nous sommes des gens qui se sont déjà sacrifiés pendant longtemps. Ça fait partie de nos sacrifices. Donc, c'était pour nous une bonne décision. Parce que si nous avons combattu pour notre peuple, on ne peut pas aller encore à l'encontre. Ça doit être une contradiction. Donc, les gens qui ne sont pas dans notre ligne, nous pouvons divorcer. On a combattu et je pense que le Congolais doit être reconnaissant. S'il nous est mort, il est mort à cause de. Parce que si lui allait accepter tout ce que les autres faisaient contre les Congolais, il serait au pouvoir juste aujourd'hui.
Mais beaucoup de Congolais sont morts aussi à cause de votre régime, de l'Ardèle.
Mais dans toute la révolution, c'est comme ça, vous voulez nommer qu'il faut passer un nom. Les Congolais ne sont pas seulement morts ici. Quand on a commencé cette révolution, nous étions nombreux, mais combien qui sont arrivés ici?
Alors, on accuse l'Ardèle d'avoir commis beaucoup des crimes à l'Est, lorsqu'il vaut ce qui vaut.
Je crois qu'il faut distinguer l'ARDEL de l'armée rwandaise.
Je parle de l'ARDEL, pas l'armée rwandaise.
Non, je ne crois pas. Nous, notre but était de chasser Mobutu et prendre le pouvoir. Il faut savoir que nous avions une armée rwandaise parmi nous, et s'ils ont fait des bavures, ce n'est pas l'ARDEL.
Et vous pensez que ça va retomber sur la tête de qui, de l'ARDEL, puisque c'est l'ARDEL qui est venu avec cette armée?
Mais il y a des gens qui ont fait des enquêtes, ils savent qui est responsable. Je crois qu'il y a des enquêtes de l'ONU qui ont été faites, ils savent bien qui était responsable.
Pendant cette période de turbulence, Laurent-Désiré Kabila a traité les gens avec qui il est venu de conglomérat d'aventuriers. Pourquoi?
C'est vrai que l'ARDEL n'était pas avec nous, PRP. C'était une partie de la révolution qui était organisée avec lui depuis le 24 décembre 1967. C'est quand nous sommes arrivés à l'Emera, donc au 6 août 1996, et nos amis rwandais nous ont donné d'autres. Parce qu'ils disent que nous devons être ensemble. Donc, puisqu'on avait besoin de leur soutien, on devait accepter ce parti que nous ne connaissions pas. Et on a créé l'affaire. Si nous les avions traités ainsi, c'est parce que ce sont des gens que, bien sûr, à vrai dire, on ne les connaissait pas.
Et c'est de la bonne chérie.
Ça, je ne sais pas.
Alors, vous avez été patron des services de renseignement sous Laurent-Désiré Kabila. On vous accuse d'avoir fait beaucoup d'abus quand même, hein? Des arrestations, des tortures, et comment vous répondez?
C'est faux. Il me donne un seul cas. Il me donne seulement un seul cas.
Il n'y a pas eu d'abus.
Au contraire.
Des arrestations des anciens mobutistes qui étaient restés ici.
Au contraire. Si ces mobutistes sont rentrés, même tous ceux qui étaient en exil, c'est grâce à moi. Et ils sont ici. Certains sont au Sénat, certains sont au Parlement. Chaque fois qu'on se rencontre, ils me remercient et ils les disent, ils les témoignent. Je ne vais pas seulement citer les noms des gens ici.
Vous avez fait quoi pour ces gens-là?
Moi qui suis allé les chercher pour que si nous sommes mis d'accord avec Mouzée, nous disons, bon, si ces gens sont nos ennemis, mais quand même, ils restent congolais. Et peut-être les autres, ils ont servi Mobutu en tant que président, mais on ne peut pas prendre tous les défauts et mettre sur leur tête. Donc, et puis, comme on avait déclaré notre révolution, c'est la révolution pardon, alors on les pardonne. Si on doit les pardonner, il faut qu'ils viennent à côté de nous au lieu de les laisser. Ouais, et puis, on peut aussi les utiliser. Ces gens ont étudié avec l'argent du Congo. Nous avons besoin des cadres. Pourquoi on va les laisser et là, aller à l'extérieur. C'est ainsi que Mouzée m'a envoyé en Belgique, là où j'ai commencé à recevoir tous ces mouboutistes qui étaient là. Je ne vais pas citer les noms, c'est tous ces mouboutistes. Ils se connaissent. Quand je suis en train de parler ici, ils se connaissent. Ils se connaissent eux-mêmes. Qui est venu à mon hôtel, qui j'ai contacté, qui j'ai donné le billet et le passeport pour qu'ils viennent. Certains, je les ai donné même des passeports diplomatiques pour qu'ils puissent rentrer. Et aujourd'hui, ils sont aux affaires.
Donc, c'est des rumeurs que les gens qui racontent des histoires.
Je ne sais pas pour me vanter, mais je crois que la mer n'a jamais été mieux gérée, plus que quand j'étais là.
C'est vous qui le dites. Vous avez
demandé à n'importe quel agent de la mer aujourd'hui, je voulais dire.
Alors, Didier Kazadinembe, à la tête de la Cohydro, la Congolaise des hydrocarbures, on vous accuse d'avoir laissé un trou de plus de 7 millions de dollars dans cette société pétrolière. Détournement.
Ça aussi, c'est des. Je ne sais pas comment. Écoute.
Encore des histoires qu'on a racontées sur votre dos.
Oui, j'ai lu ça. Même si vous allez dans l'internet aujourd'hui, vous trouverez ça. Ce sont des gens qui savent pourquoi ils voulaient mes alliés. Nous sommes en politique.
Vous connaissez ces gens-là?
Oui, nous sommes en politique, c'est la bonne guerre. Oui, bon, je connais certains d'entre eux, bon, même pas certains d'entre eux sont parmi nous aussi, mais c'est la bonne guerre, c'est la guerre du palais, et voilà. Quand on veut noyer un chien, bon, c'est comme ça. Mais je vous dis, je n'ai d'abord Koïdio qui était écrit au Congo. Les devenir, puisqu'il était déjà, Pétrole était déjà en faillite, il n'avait qu'une seule station d'essence, avec des milliers d'agents qui ne sont pas payés. Musée a décidé de créer une nouvelle société qui ne s'occupait pas seulement de la distribution du pétrole, mais aussi d'entrer dans la prospection et la production du pétrole. Parce que notre pays a du pétrole. Voilà la vision de Musée, pourquoi on a créé Koïdio. J'étais le premier ouvrier, c'est moi qui ai créé Koïdio. Et sans argent, j'ai commencé à travailler, on voit la confiance des banques qui m'ont vu. Il y a des banquiers qui sont là aujourd'hui qui peuvent témoigner avec qui je travaille. C'est parce que s'ils me donnaient des crédits pour acheter les produits et les revendre, c'est parce que j'étais un bon gestionnaire. Je vendais et j'ai payé et je recommandais encore. Je vous dis, ici à Kinshasa, avant que je prenne Koïdio, et même quand je venais de prendre Koïdio, vous avez vu si vous étiez ici, vous avez vu des files de véhicules devant les stations d'essence. Il y a des véhicules qui passaient 3, 4, 5 nuits là-bas pour avoir à la fin peut-être 5 litres. Il n'y avait que les cadavres à côté, partout dans chaque coin ici. Je me suis battu, bien sûr, avec le soutien de Musée, parce qu'il me faisait confiance. Il m'a donné les mains libres pour que je puisse développer cette entreprise. C'est moi qui ai amené un premier grand bateau de carburant ici avant que je parte. Je suis allé signer des contrats en Afrique du Sud pour 30 millions de dollars. Donc c'était un montage financier qu'on a fait avec une banque sud-africaine et notre gouvernement pour que nous commencions à payer petit à petit et dont les gens les pétroliers payer dans le taxe dont le pétrolier devait payer à l'État devait aller directement dans ce compte-là, donc c'est ce qu'on appelle exploitante. Et c'est comme ça qu'on a mis des carburants. Et quand il y a eu suffisamment de carburants ici, le Kadhafi est parti, il n'avait plus de fil, et les choses ont changé. Je suis parti, je sais combien d'argent. Au contraire, j'ai laissé des millions dans les comptes de Koïdio.
Vous avez laissé des millions et vous avez pris quelques millions avec vous.
Il y a eu bien sûr, mes activateurs, ils ont dit ça, et ils ont envoyé même des auditeurs. Ils ont fait plus de 4 audits même. Mais non.
On n'a pas su prouver que vous avez pris
l'argent. Je suis là, je suis en prison aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez fait du payer, etc. Parce que personne n'est intouchable.
C'est parce que vous étiez très proche de Moussa, on ne pouvait pas vous mettre en prison.
Personne n'est intouchable. On mettait les ministres ici en prison.
Vous étiez très proche, trop proche même, je dirais.
Non. Musée n'avait pas ça.
Alors, on ne vous accuse pas comment d'avoir détourné de l'argent à la Koïdio, mais aussi dans le panel, dans le rapport CASEM de l'ONU. Là aussi, c'était pour vous salir.
Encore une fois. D'abord, j'étais encore à Koïdio à cette époque-là. Mais si vous lisez bien le rapport, il m'a dit que j'ai accepté les armes
pour les rebelles, les Maïmaï.
Qui sont les Congolais? D'ailleurs, où est le mal si vous achetez les armes? Après tout, après 2003, quand on a signé les accords de San City, les Maïmaï étaient présents. Les Maïmaï, ce sont des Congolais. Et nous avons des ministres Maïmaï ici aujourd'hui. Et où est le mal si je pouvais le faire?
Mais
pas moi, justement. C'est pour vous dire que ce sont des faux bruits. Je ne suis pas dans l'armée. Je n'étais même pas au service de renseignement. Je n'étais plus conseiller spécial. Puisqu'après, j'étais conseiller spécial parce que pour mon premier poste, conseiller spécial en matière de sécurité de l'État. Là, ils n'ont pas mentionné à cette époque-là. Si j'étais peut-être là, à cette époque-là, je pouvais le faire. Et ils n'ont pas.
Vous étiez en portage à cette époque-là.
Et puis, je suis parti comme ambassadeur à Tanzanie. Et puis, je n'ai pas fait longtemps, je m'ai ramené ici.
Justement, en parlant de Tanzanie, pourquoi vous n'avez pas fait longtemps en Tanzanie?
J'avais une mission bien précise. Quand je suis parti là-bas, c'était en Tanzanie, où passaient tous les armes qui allaient au Rwanda. Comment je connaissais bien la Tanzanie? Nous avons préféré que j'aille là-bas pour que je puisse suivre ce mouvement de près. Et pouvoir parler aussi aux autorités tanzaniennes qui sont mes meilleurs amis d'ailleurs. On a réglé ce problème. Nous avons trouvé qu'il y avait un trou ici à côté de lui. Il a préféré que je revienne Et quand je suis revenu, j'ai commencé à assumer.
Est-ce que ce n'est pas le gouvernement tanzanien qui n'était pas d'accord de votre accréditation là-bas?
Ça peut être fait aussi, mais ils ne m'ont jamais dit ça.
En 2001, vous et Laurent Désiré Kabila étaient assassinés. Comment vous avez vécu ce moment-là?
C'était le moment le plus difficile de ma vie. Le moment le plus difficile de ma vie. Vous voyez, vous perdez un camarade qui a vécu avec vous depuis le jeune âge. Donc, vraiment, j'étais choc que jusqu'à présent, je l'ai toujours. Donc, il y a un grand vide à côté de moi depuis que vous nous a laissé. J'ai compris. Il le sentait d'ailleurs. Parce que avant un mois avant sa mort, il a fait une longue interview qu'il n'avait jamais fait en Swahili avec un journaliste de la BBC. Nous étions à 3 mois et le journaliste est nous a une interview qui a pris plus d'une heure du temps. Là où il a expliqué presque toute sa vie. Et vous pouviez voir dans cette interview qu'il avait des sentiments.
Qui s'est préparé.
Et un mois après, on l'a tué. Et il me le disait chaque fois, avant sa mort, chaque fois il me disait, ces gens veulent me tuer, ces gens. Alors, il vous posait toujours la
question. C'est qui
ces gens? Il dit, ces gens, ces imbéciles. Voilà. C'est qu'il avait déjà un sentiment qu'il y a quelque chose qui allait l'arriver.
Voilà. Qu'est-ce que Didier Kazadi Nyombo est devenu aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis député national de la circonscription de Ndandajika, dans la région de Bouima. Bientôt, nous allons terminer notre mandat.
Quel bilan vous dressez de votre mandat?
Pour moi, c'est positif. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je vais encore.
Vous représentez?
Je représente.
Mais on vous voit rarement à l'Assemblée nationale.
Oui, je suis là. Peut-être que ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais je fais des actions sur le terrain.
À l'Assemblée.
J'ai dit, je fais les actions sur le terrain.
Vous rentrez
chez vous. Il a demandé les gens de
on a besoin de vous aussi à l'hémicycle.
Mais nous avons les gens qui sont de la même circonscription avec moi, qui sont à l'hémicycle tous les jours. Mais il faut aller voir sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain?
C'est vous qui devez faire ça, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le rôle du député.
Écoutez, nous connaissons notre gouvernement. Vous connaissez bien nos problèmes, les problèmes de l'État.
Donc, notre gouvernement est comment?
Nous avons des problèmes d'argent.
Et vous avez de l'argent, vous avez des actions à poser à la place du gouvernement parce que vous avez beaucoup d'argent.
Mais non, ce n'est pas. Donner, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est la volonté. Il y a les gens qui ont plus d'argent aussi, bien sûr, chez moi. Vous partez ici au Congo, mais vous préférez aller investir à Belgique ou à Paris. Mais moi, je préfère investir chez moi, en Belgique, qu'à Kinshasa. C'est ça la différence. Je ne sais pas que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est parce que j'aime mon pays.
Est-ce que vous savez qu'il y a une liste qui circule des députés absentéistes? Il paraît que vous battez le record.
Je ne crois pas que cela est vrai. Bon, on attendait que la liste sorte, hein, et qu'on l'informe. Moi, si je sors aussi, je sors avec l'autorisation. Donc, vous êtes absent, mais vous êtes autorisé.
Donc, que vous collègues travaillent là, à l'Assemblée, vous préférez faire des actions à l'Assemblée?
Vous savez, là, l'Assemblée, chacun a son rôle.
C'est au nom de votre parti politique ou au nom de Didier Kazadi?
Les deux.
Donc, vous privilégiez plus le parti?
Bien sûr, mais depuis que je suis arrivé là à travers ce même parti, donc je dois décider le parti, travailler pour le parti. Parce que c'est la liste du parti qui peut faire des tours. Je ne suis pas un candidat indépendant, je suis un homme fidèle. Si j'étais fidèle à Laurent Désiré Kabila, depuis mon enfance jusqu'à sa mort, et je reste toujours fidèle encore à son fils. Je crois juste encore à sa mort. Je ne vois rien qui va me séparer, moi, de cette famille.
Vous avez quel lien avec cette famille d'idées? Je suis curieuse de savoir.
Mais c'est ça, c'est trop lié. Nous n'avons pas de lien biologique.
Pas de lien biologique, oui, mais qu'est-ce que vous dites comme ça?
Mais je vous dis que j'ai été adopté par Musée comme son fils, donc personne ne va nous séparer. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui font un effort pour nous séparer, mais ils n'arriveront pas. Ça, je le sais.
Didier Kazadi Nyombo, à part les travaux de député, vous êtes aussi écrivain.
Oui, écrivain comme tel, je ne suis pas professionnel, mais j'écris ma mémoire.
Je suis
en train d'écrire ma mémoire sur les Congos, sur la libération, la révolution. Il y a deux phases dans ce livre. Il y a la phase d'avant la révolution, donc notre révolution, et puis d'après la révolution, jusqu'à aujourd'hui. Dans la première phase, je suis en train de parler de justement beaucoup de Musée, parce que malheureusement, Musée est mort, il n'a pas eu le temps d'écrire et laisser ses écrits. Bien sûr, c'est notre devoir, nous, pour ses plus proches collaborateurs, d'écrire pour que les gens le connaissent bien, parce qu'ils sont en train de les tripoter dans son histoire. Nous voulons mettre au moins le point sur le
désir.
Puis je vais aussi expliquer certaines insuffisances que nous avons eues à travers notre longue marche jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le livre peut sortir d'ici une année.
Merci de nous avoir reçus chez vous.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dudé Kazadi-Nyombe, un politique congolais, ancien conseiller spécial en matière de sécurité de Laurent Désiré Kabila, ancien directeur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, mais aussi premier président délégué général de la Cohydro, la congolaise des hydrocarbures. Actuellement, il est député national. Merci à Paul Badianiama qui était à la technique au micro qui l'écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net, dans ce programme pour la fréquence de la paix.